Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Notre nouvelle chronique aujourd'hui nous amène à Blavignac pour évoquer le souvenir et les circonstances de construction du château de Blagnac, qui va en surprendre beaucoup, et c'est Michel de Rivoire et Sébastien qui vont dialoguer avec moi sur ce sujet qui, pour ma part, m'a appris beaucoup. Michel, alors, je vous laisse entamer.
Alors, on est un peu extramuros aujourd'hui.
C'est un parti qu'on a pris, là, depuis le début de l'année 2026, ouais. De quitter le centre de Toulouse. Blagnac est une commune, tout le monde au moins connaît le nom, n'est-ce pas, qui touche, qui est limitrophe de celle de Toulouse. Et donc, dans notre chronique sans fin, Demeures et familles, nous restons bien dans le sujet, sauf que nous partons du château de Blagnac et nous allons un peu regarder série de personnes, personnages plutôt, qui sont succédés.
Oui, parce que finalement, la concrétisation par ce château de Blagnac est le signe de présence de famille, oui, dans une société qui, je crois, était quand même assez organisée.
Alors, vous faites allusion à Aline, aux racines de la commune de Blagnac,
oui,
et du fort. C'est un fort villageois. On est typiquement, alors on est bien à l'opposé, j'allais dire, aux antipodes du monde du pastel. Hein. On quitte vraiment ce schéma et on est à Blagnac, falaise dominant la vallée de la Garonne.
À l'aval de Toulouse.
Oui, on est sur un archétype du fort villageois, concédé par les comtes de Toulouse à un certain Géraud Baleine, pas comme l'animal, je suppose, il n'y a pas de baleine dans la Garonne, mais chevalier quercinois qui vient s'installer là, sur ordre, en 1307. C'est connu. C'est l'histoire de Blagnac, n'est-ce pas,
oui,
Aline,
donc
est très...
il est invité à venir.
Oh, on lui délègue.
Oui, il s'invite
oui, oui. C'est une époque où on a besoin de héros.
Vient.
Oui, oui, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Les Anglais menacent la province. Et donc, c'est, si vous voulez, au Moyen-Âge, hein, plein milieu, 14e, c'est un village fortifié avec un seigneur et un château fort.
Avec une population, je pense, qui est très ancienne. Parce qu'on est sur des occupations...
Néolithiques.
Oui, c'est ça.
Oui, oui, ça a été également très bien étudié. Le fleuve et l'artère qui nourrit toutes ces implantations. Voilà. Mais pour avancer, puisque nous avons localisé, bon, une fois qu'on a dit Blagnac, célèbre mondialement par son aéroport, par les entreprises,
dont aéronautique.
Mais voilà, qui est aujourd'hui entièrement ou presque urbanisé, on ne peut pas quand même oublier la mémoire de la banlieue maraîchère, qui était importante à Blagnac au début du XXe siècle. Et si certains d'entre nous se rappellent, le dicton des Kawek, qui était un nom qui ressemblait, qui évoquait la chouette en patois, il disait, ces Kawek, en allant travailler, on disait d'eux que nos carottes régalent le monde entier. Et en fait, c'est parce qu'il avait bossé de nuit avec des lampes, je ne sais pas comment, qui lui ont donné cette allure de chouette. Une fois qu'on a fait cette mémoire...
Il y a une confrérie qui perpétue cette tradition de la carotte, qui s'appelle la confrérie de la carotte joyeuse.
Voilà. Voilà. Donc Blagnac était déjà mondialement connu au début, bien avant l'aéronautique. Ce qui fait que cette seigneurie, donc nous l'avons dit très ancienne et bien fondée, a été toujours très convoitée.
Donc avec une vocation quand même très agricole, le travail du sol.
Oh oui, 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 toujours. Oui, que ce soit
pas de garnison, pas de.
Non, ce n'est pas une garnison. On n'est pas dans un village fortifié comme on le trouve à quelques dizaines de kilomètres de Toulouse. On est vraiment une banlieue. Déjà, la banlieue, ça signifie 8 km
Donc une banlieue maraîchère, si j'ai bien
compris. Et maraîchère de tout temps, mais essentiellement rurale. Et d'ailleurs, j'aimerais faire citer la source qui nous a aidé à préparer cette chronique en la personne de Bernard Lavigne, ancien maire au 19e siècle, et qui a écrit une petite histoire de Blagnac qui fourmille de détails, de noms, d'anecdotes, et qui rend très vivante cette histoire. Et on n'a pas le temps, hélas, mais pour une fois qu'on ne parle pas que des seigneurs et des châtelains, eh bien, on a un tableau vivant, comme vous venez de de l'évoquer Aline, de ses cultivateurs, mais aussi de ses artisans, de leurs épouses.
Oui, de vraiment de ses familles. Blagnacaise.
Oui, et quelle précarité. Quelle précarité. Alors, même si on avait un bel établissement, ben les intempéries, débordements de la Garonne ruinaient souvent beaucoup d'efforts.
Donc là, on n'a pas encore de château.
Alors, le château, pour parler un peu de notre chronique d'aujourd'hui, le château seigneurial de Blagnac est construit tout début 14e. Dans la première moitié, puisqu'il y a des archives de 1321, grâce à cette histoire de Blagnac de 1761.
Par le premier, donc.
Non, le premier, il est dans le chauffort villageois, sert à héberger le seigneur.
Ah.
Hein, c'est comme l'hôtel de ville aujourd'hui, il est bien au milieu du village.
D'accord.
Tandis que le nouveau, alors c'est Géraud Baleine qui l'a fait construire, d'après Bernard Lavigne. Il a fait construire hors les murs, sans doute pour montrer son indépendance et sa supériorité, et pas uniquement sa fonction administrative. Donc, les archives décrivent un château à plusieurs étages, avec galeries et chapelles, tours et grandes clôtures de murs, écurie, four à pain, enfin, une petite entreprise, finalement. Et on y entrait par un pont-levis flanqué de deux grosses tours. Il existe d'ailleurs un relevé qui a été fait et qu'on peut voir dans cette histoire de Blagnac. Un relevé, un dessin, oui. Et puis il a été incendié à la fin des guerres de religion. Mais il y a une grosse histoire entre le XIVe siècle et la fin du XVe. C'est l'entrée de la famille de voisins, alors voisins comme le voisin, mais avec un S à la fin, qui est une famille dont on trouve des traces en Beauce.
Ah oui, qui n'était pas d'origine de la région.
Non. Mais elle va garder la seigneurie pendant 3 siècles, hein, jusqu'à la fin du XVIIe siècle.
Elle arrive dans les bagages de Simon de Montfort.
Voilà, alors c'est un peu. C'est vraiment décliné dans la proche banlieue de Toulouse, toutes ces péripéties consécutives aux croisades et à la domination du pouvoir royal. Cette famille de voisins, il faut s'y arrêter parce qu'elles se succèdent dans 3 siècles. On aurait matière à tous à décliner tous leurs noms, mais ils ont vraiment fait parler d'eux et pas uniquement en termes très, je dirais, très humanistes. Voilà, pour rester. Voilà. Alors, s'il fallait en retenir deux, je dirais, dans cette longue succession de mâles, monsieur deux voisins et leurs épouses, on retiendrait. Le premier, Géraud de Voisin, qui fait rebâtir l'église de Blagnac, qui est dans le style gothique, et qui, titré baron de Blagnac, occupe le château de manière tout à fait... qu'on peut se le représenter avec tous les attributs et la domination.
Et il occupe un château qui ne va pas transformer.
Alors... On n'a pas comment dire, on a plus d'éléments sur la façon dont ils occupent la seigneurie et autour, parce qu'ils s'étendent. Hein, Blagnac est de l'autre côté de la Garonne à l'époque, jusqu'au XVIIIe. Donc on n'a pas trop de détails sur les embellissements. Ils viendront au XVIIIe siècle. J'espère qu'on aura le temps d'en dire un mot. C'est intéressant. Mais il faut surtout dire, voilà, alors, le premier Géraud et le second, qui est un certain César de Voisin, au milieu du XVIIe siècle, ou XIII, ou XIV, si vous voulez, entre les deux, et qui se comporte comme un tracassier baron de Blagnac vis-à-vis des habitants. Voilà. Puis, comme souvent, au bout de... Les descendants ne se comportent pas, ne sont pas à la hauteur, ou on morce les... Bref, c'est une fille, Isabeau, la sœur de ce César, de voisin, qui épouse un Capitoul, et qui va en fait précipiter le déclin de la seigneurie. Elle va se réduire des deux tiers et vendre finalement un certain Jean d'Aldéguier, nom bien connu à Toulouse.
Grand nom toulousain.
Un financier qui est donc trésorier de la généralité de Toulouse. Et c'est lui, Aline, pour répondre à votre question de tout à l'heure. Au XVIIe, les modes changent, on ouvre, on aère, on enlève les meneaux, on abat les tours quand il faut. Mais là, il va carrément... supprimer le château qui avait été incendié à la fin du XVIe,
qui avait dû probablement se ruiner.
Du coup, il fait bâtir un nouveau château avec, en briques rouges, avec des filets blancs, des croisées à meneaux tout de même, mais deux pavillons latéraux. Et c'est, pour ceux qui connaissent, le château actuel dont on peut encore voir.
C'est le château de Blagnac.
Et oui, parce que peu savent qu'il y a en fait un château. C'est le couvent, Aline,
ben oui,
des Dominicaines aujourd'hui. Et il couvre également, je crois qu'il y a bien une communauté des Béatitudes. Il y a également l'Arche qui est représentée, j'avais été les voir. Et l'association, on ne peut pas ne pas citer leur nom, Histoire et Mémoire à Blagnac, président Jacques Thomas, qui valorise justement ces visites et...
Oui, qui fait un travail remarquable sur la mémoire de Blagnac.
Tout à fait. Et donc, entre les religieuses qui ont pris le couvent au milieu du 19e siècle, enfin, première moitié, et cette histoire de voisins, une succession de personnages hauts en couleur, que nous n'avons pas le temps d'évoquer, mais vraiment, j'encourage ceux qui s'intéressent à cette histoire à se plonger grâce à l'association Histoire et Mémoire et au livre de Bertrand Lavigne, et peut-être grâce à la OTA.
Oui, mais bien sûr.
Il faut chercher. Oui. Eh bien, on a... des stars, des stars du patrimoine, pour utiliser le langage actuel, en la personne d'un monsieur Castagnier d'Oria, qui est même président au Parlement de Toulouse, et d'un autre qui est beaucoup plus, droit.
Eh bien, entre Gaspard de Maniban et les religieuses, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, c'est un moment extraordinaire au niveau artistique et culturel de Blagnac, puisque nous avons un marquis de Sauveterre, qui est en fait Louis-Emmanuel de Bouillet-Drudas, qui est un somptueux parlementaire qui menait une vie princière. Il fait des travaux considérables dans le jardin. Alors là, on n'a pas le temps, mais si on sait qu'il y avait une grotte ornée aménagée dans la falaise qui regardait la Garonne, ça vous donne une idée de ce somptueux décor. Il ne le garde pas longtemps, et en fait... Il ne le garde pas parce qu'il perd au jeu, il jouait. Et là, imaginez-vous, pour au moins ceux, les cinéphiles, le film Barry Lyndon, mais sur les bords de la Garonne,
oui,
à la Toulousaine. Et c'est son tombeur, qui est du nom de Ambroise Dutrait, qui n'est pas baron de Blagnac, qui ne relève pas de la haute noblesse. Il est fils d'un artisan de Boulogne-sur-Gesse. Et comme c'est un habile joueur, eh bien, il a obtenu tout, il a tout raflé, c'est le cas de le dire, il a raflé la mise, et il a aménagé le château. Alors, en concurrence avec les frères du Barric, dont on avait évoqué une fois précédente.
Oui.
Et vous imaginez ça, des dîners de 50 couverts somptueux. Vraiment, on est à la fin du règne de Louis XVI. Bon. Mais je ne voudrais pas qu'on nous finisse cette chronique sans parler du couvent des Trappistines, qu'il avait acheté à un descendant de Gaspard de Maniban, un neveu, qui lui-même n'avait pas pu le garder parce qu'il avait la folie, l'avait traversé de voir le céder à Napoléon Ier. De passage à Toulouse en 1808. Il avait fait des travaux colossaux et après la Révolution, et il n'a pas pu le garder. Donc, après un certain désordre de propriété, ce sont les Trappistines qui, elles, jusqu'à nos jours, avec leurs successeuses, ont permis à ce site extraordinaire...
Ah oui, de demeurer.
Et dans cette église que tout le monde, évidemment, peut venir se recueillir... On a, n'est-ce pas, Aline, de magnifiques vitraux et peintures. Notamment, il faut citer Louis Mazetier, qui a été classé, ce décor a été classé récemment.
Eh bien, merci pour cette belle évocation d'histoire de Blagnac
et d'art local.
Et d'art local. Merci, Michel.